demandera au Seigneur, mais c'est bien de pouvoir lui apporter notre reconnaissance. Alléluia. C'est déjà quelque part un élan de notre foi, hein, que de lui apporter la reconnaissance. 1 Samuel, chapitre 14, verset 1er. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Achitub, frère de Dicabod, fils de Phiné, fils d'Eli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait les phobes. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botseth et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver, au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, « Allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous », nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons. Car l'Éternel est libre entre nous-mêmes et c'est là ce qui nous servira de signe. » Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins. Et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel est libre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivait. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Amen. Un homme rempli de foi est capable de semer une terreur de Dieu. Alléluia. On va le voir, il est question de la foi. Il est question également de l'engagement. Alors Israël, pour situer un petit peu eh bien, leur situation, était dans une situation justement catastrophique suite à une première attaque de Jonathan. C'est-à-dire que Jonathan, déjà une première fois, il est allé un petit peu aiguiser ses armes là-bas. Il est allé voir un petit peu comment ça s'est passé. Et à ce moment-là, eh bien, ça a révolté les Philistins qui étaient encore plus en colère, qui en voulaient encore plus à Israël. Donc, ils sont montés en force contre Israël. C'est Saül, son père, qui a hérité de cette situation. Figurez-vous qu'il y avait 3000 Israélites contre 30 000 chars et 6000 cavaliers philistins. Fais pas le poids, là. Hein? Eh oui. Alors, n'ayant sur le plan humain aucune solution, hein, et dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va laisser la situation se détériorer. Il ne va pas bouger, il ne va rien faire. Puis, il va s'entêter à vouloir, justement, offrir un sacrifice avant d'engager le combat, parce qu'il voyait que les combattants commençaient à déserter. Au fur et à mesure, tous les combattants partaient et se retrouvaient de plus en plus seuls. Alors, offrir un sacrifice, eh bien, ce n'était pas le rôle de Saül. C'était le sacrificateur. C'était donc Samuel qui devait l'offrir et pas lui. Il était averti, il le savait. L'auteur de ce texte, après avoir apporté la condamnation divine de Saül, accentue encore le portée tragique d'Israël en indiquant ceci. Premièrement, que seuls 600 soldats étaient restés avec Saül. 600. Deuxièmement, que les Philistins avaient profité de ce repli temporaire, hein, là, cette non-réaction de la part de Saül, eh bien sur Gibea, il était resté pour occuper. Hein, ils avaient justement profité de cela pour revenir avec une importante garnison et puis reprendre la colline, avancer, reprendre le terrain. Troisième chose, c'est qu'Israël était dépourvu d'armes de qualité, puisque les Philistins avaient non seulement le monopole de la fabrication du fer, mais aussi avaient réussi à confisquer aux Hébreux l'ensemble des armes, des outils, tout ce qui était métallique. Hop, ça avait disparu. Comme ça, vous ne ferez pas fort, vous ne ferez pas une arme avec ça. Donc voilà un petit peu. Alors l'objectif de Jonathan, c'était de prendre, je dirais, un point stratégique, quelque chose de marquant. Quelque chose qui, finalement, effraierait l'adversaire. Il ne voulait pas autre chose que cela. Alors, ça nous montre que Jonathan, si les autres avaient baissé les bras, s'ils s'étaient repliés, lui, eh bien, il ne s'avouait pas vaincu. Il savait que Dieu était avec lui. D'accord ? Alors, plutôt que d'attendre, résigné comme les autres, l'assaut final des Philistins, il décide, lui, de quitter le camp. Non pas justement pour déserter, mais parce que d'autres l'avaient fait déjà, hein, ils se cachaient, hein, mais pour attaquer un poste de Philistins, c'est-à-dire aller affronter l'adversaire. Vous voyez, il n'attendait pas, il ne voulait pas attendre. Alors Jonathan ne cherche pas à battre quelques ennemis dans un esprit de revanche. Hein. Il n'est pas non plus intéressé à ne renforcer que légèrement la situation de son peuple, inverser un peu les choses, vous voyez, un petit peu. Et par exemple, quelques armes prises à l'ennemi, ça nous fait un trophée, on aura au moins des armes, ou alors en éliminant une garnison de simplement 20 hommes. Non, c'est pas ça qu'il veut, autre chose. Jonathan, il cherche une victoire éclatante, mémorable, où on en parlera, une victoire qui, comme je disais, effraierait, donnerait peur à l'adversaire, les mettrait en doute. Donc une victoire qui pourra, comme cela, ranimer le courage de ses troupes et surtout démoraliser l'adversaire. Alors Jonathan veut prendre quelque part l'imprenable, et on va voir que ce n'était pas facile, et montrer ainsi que la forteresse philistine, même la mieux défendue, la mieux gardée, peut tomber devant une poignée d'hommes. Une poignée d'hommes, vous voyez ? Mais animés de la foi, animés du zèle de l'Éternel. Des hommes qui ne venaient pas seuls, mais qui venaient tout simplement avec l'Éternel, avec eux. Amen. Dans l'objectif choisi est situé entre deux points rocheux, au 1 Samuel 14, verset 4, il y avait une dent de rocher d'un côté, une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botset, qui signifie lumineux, et l'autre c'était Séné. Séné, ça signifie épineux. Alors même si en nous, il y a l'éclat du Seigneur, notre côté c'est épineux, ça va être difficile. Et oui, il faut le savoir, hein. Toutes les fois où nous allons au combat, savons que la lumière est avec nous, le Seigneur est avec nous, la puissance de Dieu est avec nous, mais l'adversaire, il ne se laissera pas faire. Ça, il faut le savoir. Hein. Alors, l'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au sud vis-à-vis de Geba. Alors, les Philistins avaient établi un avant-poste dans ce défilé appelé la passe de Michmash, situé au plein cœur d'une colline, la colline de Judée, entre les armées philistines et les armées d'Israël. C'était au mieux. D'accord ? Alors, la garnison philistine perchée au sommet d'un monticule, aux pentes abruptes, parce qu'il s'est, on va le voir, il s'est aidé des mains et des pieds. Et il a fait de la varap. Eh oui. Alors, vous savez, quand vous faites de la varap, il faut toujours trois points d'appui. Je vous en parle parce que j'ai fait du secours en montagne. Je fais du secours en rocher. Il faut toujours trois points d'appui, ou deux pieds, une main, ou deux mains, un pied, mais il faut toujours trois points d'appui. Parce que ça peut glisser, vous pouvez perdre l'équilibre, vous pouvez eh bien, perdre justement un appui, je ne sais plus comment on appelle, j'ai perdu. Voilà. En tout cas, voilà un petit peu. Alors, l'espace au pied du monticule, apparemment, c'était dégagé. Pas bête, les Philistins. Hein ? On enlève tout ce qui pourrait servir de cachette, hein, tout ce qui nous empêcherait de les voir arriver, et ainsi on ne sera pas surpris. Voyez, donc pas d'effet de surprise, c'est impossible. Il faut les affronter directement et nous verrons. Alors ce poste-clé contrôlait toute la région et cela semblait justement imprenable. Alors l'objectif idéal pour Jonathan, c'était de pouvoir arriver devant et de monter. Alors s'il pouvait la prendre, comme je disais, ça redonnerait du courage tout simplement à ses compagnons d'armes et peut-être ça mettrait un coup fatal à l'adversaire. Vous savez, des fois, il ne faut pas grand-chose. Alors encore, fallait-il la prendre. Et le signe demandait à Dieu, se faire passer pour déserteur, c'est ça. Mais Jonathan n'est pas sûr de réussir, bien qu'il soit convaincu qu'à Dieu, rien n'est impossible. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? À Dieu, rien n'est impossible. Il le dit, hein. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alors, il ne sait pas si Dieu va lui accorder la victoire ce jour-là. Mais pour s'en assurer, eh bien, Jonathan va demander un signe. Et c'est bien de demander au Seigneur, avant d'aller au combat, avant de s'engager dans une situation, c'est bien de lui demander son avis. Parce que des fois, on s'est engagé, et après, on vient voir le pasteur. « Pasteur, est-ce que j'ai bien fait ?» Eh oui, et puis le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est obligé de dire la vérité. Des fois, non, non, tu as fait n'importe quoi dans l'affaire, là. D'abord, tu aurais pu t'arrêter et venir m'en parler ou en parler à plus haut. Hein, parce qu'après, on y laisse des plumes. Hein. Des fois, on se met dans des situations et après, ben, on,